بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام نور مسيح الله عز وجل qui nous donne la possibilité donc de nous réunir après la Salatul Isha, accomplie en congrégation, pour une assemblée où on va parler uniquement d'Allah Azza wa Jal, du dîn d'Allah Azza wa Jal. Et on va essayer de comprendre un peu plus les paroles de notre prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Et nous avons commencé il y a quelque temps avec un hadith essentiel dans Riyad al-Salihin, un hadith qui fait partie des hadiths de base que chaque musulman se doit de connaître. C'est le hadith qui est connu hein, par les savants, qui est surnommé hadith Jibril. Hadith Jibril dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les musulmans réunis autour de lui à la ville de Madina al-Nabawiyya reçoivent la visite de l'ange Jibril alayhi salam sous l'apparence d'un être humain et qui va poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam, des questions de base. Et à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam donne une réponse, l'ange, la personne, va attester que tu as dit vrai. Et à travers donc ces échanges, l'ange Jibril a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux compagnons qui étaient présents les branches de la foi ainsi que les piliers de l'islam ainsi que les degrés, les darajat, maratib al-iman jusqu'au plus haut degré qui est le ihsan. Alors nous on avait développé bi'idhnillah le premier pilier de la foi qui est al-iman billah. On avait ensuite démarré avec Al-Imanu bil-Malaika, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Et ce qu'on avait essayé de mettre en avant la semaine dernière, c'était la relation que le musulman il va avoir avec Allah Azza wa Jal lorsqu'il va perfectionner, approfondir, creuser son iman bil-Malaika. Le plus on va croire en l'existence des anges, plus on va essayer d'acquérir les sciences, la connaissance nécessaire qui nous permet de comprendre comment fonctionne ce monde, ce alam créé par Allah Azza wa Jal, ben ce sera là quelque chose qui va renforcer avant tout notre iman en Allah Azza wa Jal. Déjà ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était uniquement par rapport au nombre de malaïka, au nombre d'anges qu'Allah Azza wa Jal a créé. Mais le simple fait d'être conscient du nombre de malaïka qui ont été créés par Allah et être conscient qu'on ne peut pas les voir, ça nous fait comprendre la grandeur d'Allah, le mulk, la royauté, la puissance d'Allah et comment nous sommes rien. Les cinq sens que nous possédons ne peuvent même pas percevoir, entendre, entrevoir non plus ces 90% environ de la création de toute l'al-khalq, de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Et parmi les malaïka qu'on avait présentés la dernière fois, il y a l'ange Jibril alayhi salam qui était l'ange chargé des révélations par excellence. Et le fait que nous, musulmans, nous croyons en l'ange Jibril, ça prouve également que nous croyons en la chaîne des prophéties et la chaîne des kutub, la chaîne des livres révélés par Allah Azza wa Jal. Et ce sont là des branches de la foi qu'on verra, inshallah, par la suite. Mais il faut savoir que c'est le même Jibril, alayhi salam, qui avait apporté le Injil, qui avait apporté le Zabur, le Tawrat et donc le Coran, cette fois-ci à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait d'accepter, le fait de croire en l'ange Jibril alayhi salam, c'est déjà une preuve que nous croyons que ce prophète avait déjà amené les autres livres au prophète qui était venu donc avant lui. Également, parmi les malaïkas, ça on avait expliqué la dernière fois. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est entre autres l'ange Israfil, ça aussi je pense qu'on avait un peu développé la dernière fois, l'ange qui est chargé de souffler dans la corne, dans la trompe. On n'aime pas utiliser le mot trompette, hein, très souvent on parle de trompette, non, c'est une corne gigantesque hein, dans laquelle il va souffler par ordre d'Allah Azza wa Jal pour la fin du monde. Et dans certaines sources, c'est dit « فَإِذَا سَمِعَهُ النَّاسُ سَمِعُوا صَوْتًا لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهِ » Lorsque les gens vont entendre le souffle de la corne de Israfil, et qui sont ces gens qui seront présents à cette époque? Est-ce qu'il y aura encore des musulmans? Abadan. Lorsque le Qiyama a lieu, il aura lieu sur Sharrul Khalq, les pires des créatures d'Allah sur ce dunya. C'est-à-dire que les gens vont retourner vers l'adoration de pierre, vers l'adoration d'idoles. Les gens vont perdre complètement la notion de pudeur, même si déjà on voit qu'on en prend le chemin. Mais ce sera un stade pire où les gens vont vivre presque comme des animaux.
D'accord ? Et c'est sur ces gens-là qu'auront lieu la fin des temps, la destruction de ce dunya. Parce que vous savez que tant que Allah Azza wa Jal maintient en vie quelqu'un qui dit Allah, le monde n'est pas détruit. Tant qu'il y a quelqu'un qui fait le dhikr d'Allah, qui adore Allah Azza wa Jal, ce dunya n'est pas détruit. C'est lorsqu'il n'y aura plus personne qui a de son cœur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qu'il restera les pieds des créatures, c'est là qu'Allah Azza wa Jal va ordonner à l'ange Israfil, avec un fa, n'oublions pas, l'ange Israfil alayhi salam, de souffler dans la corne de la trompe. Et là on rappelle encore, ce seront donc les pires des gens. Ils disent que Faïda Sami'u, ce qu'on a expliqué tout de suite là, on a lu, si on retrouve le passage, on a perdu, oui. Faïda Sami'ahu Nasu, Sami'u Sautan la Ahda lahum bihi. Les gens vont entendre un son qui va les interpeller, un son étrange comme ils n'en ont jamais entendu. Un bruit qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie. Sautan Muz'ijan. On va dire un bruit, un son qui est extrêmement dérangeant, et ils vont tomber, ils vont s'évanouir. Ay yamutuna min shiddati hadha as-sawt. Commentaire dit qu'ils vont mourir à cause du bruit insupportable qui vient de la corne de Israfil alayhi salam. C'est ce bruit-là qui va tuer l'intégralité des gens qui sont encore sur ce dunya. Donc ça, c'est le premier travail de Israfil alayhi salam. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit que depuis quand il a été créé ? Depuis qu'Allah Azza wa Jal, subhanallah, a démarré la création. Et qu'Allah Azza wa Jal, c'est Mustawa ala al-Arsh, s'est établi sur le trône. Et là, il y a eu la création des grands anges. En français, on dit parfois les archanges. Je pense que ça n'a pas de souci. Hein, c'est les grands anges qu'Allah Azza wa Jal a créés. Depuis cette époque-là, sa mission n'a pas commencé. Il est là. Il a une mission qui va commencer, on ne sait même pas quel chiffre il faut dire, milliards d'années, dizaines de milliards d'années, milliers de milliards d'années, Allah seul le sait, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Et à ce moment-là uniquement, son travail va commencer, il va donc souffler dans la corne pour la destruction de ce monde. Ça, c'est la première étape de la mission de l'ange Israfil alayhi salam. La deuxième étape de la mission de cet ange Israfil, c'est فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ نُفِغَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et Israfil, l'ange, va souffler une seconde fois dans la trompe, et là, toute la création va être ressuscitée. Et puis donc, la façon que les créatures vont être ressuscitées, là aussi, il y a pas mal de détails à travers la lumière des hadiths, hein, qui expliquent que tout d'abord, il y a tel ange qui vont revenir à la vie, et ainsi de suite, parmi les êtres humains, sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même dit que quand je vais revenir à moi, je vais être ressuscité, je me rends compte que Moussa alayhi salam est déjà debout près du arche d'Allah azza wa jal. Est-ce que lui aussi, il a été atteint par ce son, ou lui, il en a été épargné? Bref. Donc il y a pas mal d'explications, ce n'est pas le but, mais l'objectif c'est de comprendre quelles sont les deux étapes de la mission de l'ange Israfil alayhi salam. Et les savants disent que, voyez, à travers la force de cet ange, la force du souffle de cet ange, à travers cet instrument, Allah Azza wa Jal est capable de détruire tout ce qui existe. C'est ce qu'on appelle Al-Alamin. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin c'est Kullama siwallah, Kulluma siwallah, tout ce qui existe en dehors d'Allah. Il y a tout ce qui est makhlouq, toutes les créatures d'Allah, c'est les anges, c'est les djinns, c'est les êtres humains, c'est les animaux. Il y a toute forme de vie est détruite par le souffle, le souffle de la trompe de Israfil alayhi salam. Vous voyez la puissance d'Allah, la qudra d'Allah, et la qudra qu'il a accordée à cet ange, la force qu'il a donnée à cet ange, et à l'instrument qu'Allah Azza wa Jal a créé. En un souffle, tout ce qui peut exister va être immédiatement détruit. Donc, qui c'est qui donne la mort? C'est uniquement Allah. De la façon qu'il veut, la quantité de personnes qu'il veut, au moment où il veut. Et avec le même instrument, le même souffle, il redonne la vie. Vous voyez la qudra d'Allah avec le même la même méthode, le même souffle, le même ange, la même corne. C'est pas qu'il y a une corne que Israfil utilise pour l'anéantissement de ce dunya et ensuite il prend une autre corne pour faire revivre. Non, c'est par le même instrument, parce que tout ça c'est sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est la décision d'Allah, c'est la puissance d'Allah Azza wa Jal, puissance qu'il a accordée, il a missionné ses anges, mais ces anges-là, s'ils ont le pouvoir de faire telle ou telle chose, c'est que cela revient à Allah Azza wa Jal. Et donc, quand on voit la force de cet ange, Israfil, ça nous ramène vers la force, la grandeur d'Allah, le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, et celui qui ressuscite après la mort. Celui qui redonne la vie, donc, après la mort. Hada. Autre, bon, il y aurait beaucoup plus de choses à dire à propos de ces anges, mais le but n'est pas d'aller vers un détail de l'histoire et de la mission de chacun de ces anges et de toutes les descriptions qu'il y a dans les hadiths. Mais là, on a vu en gros ce qu'on doit savoir sur l'ange Israfil alayhi salam. Il y a également, subhanallah, et on ne peut pas passer à côté, l'ange de la mort. Alors, si on trouve le hadith, subhanallah, concernant l'ange de la mort, on avait dit tout à l'heure que l'ange Jibril alayhi salam était chargé de la vie des arwah, la vie de l'âme, en apportant le wahi, en apportant la révélation, il fait revivre les cœurs. Maintenant, celui qui est responsable de la mort, c'est l'ange, le Malik al-Maut, comme on dit, l'ange de la mort. Et dans les descriptions des hadiths, il est mentionné de quelle façon l'ange de la mort prend l'âme d'un croyant et de quelle façon il prend l'âme d'un mécréant. Et dans certains hadiths, il est expliqué également que lorsque l'ange de la mort va prendre l'âme d'un mu'min, et là il faut avoir ce désir que, inshallah, nous ferons un jour partie de ces croyants, de ces proches d'Allah qui recevront la visite au préalable d'un cortège de malaïka. Avant que l'ange de la mort reprenne l'âme de quelqu'un, ce sont là, encore une fois, ça nous ramène vers la différence qu'il y a entre ce que nous pouvons percevoir et la réalité. Et la réalité, c'est le monde de l'invisible. Nous sommes parfois autour du lit d'un mourant, à l'hôpital, en soins intensifs, ou Allah protège, personne qui a eu un accident, qui est en train de mourir sur le sol, ce sont des cas de figure possibles, ou qui a fait un malaise cardiaque, qui est en train de mourir devant nous. Nous, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, il y a la personne qui est en train de suffoquer, en train de mourir, avec peut-être un infirmier qui fait un massage cardiaque ou autre chose, mais on ne sait pas tout ce qui est en train de se passer. Si c'est un homme pieux, il reçoit déjà la visite d'un cortège de 500 malaïkas qui lui annoncent tous de bonnes nouvelles. Et ensuite, l'ange de la mort vient pour prendre l'âme de cette personne. Et nous, on ne voit rien. On n'entend rien. Et parfois, nous, on est attristés. On voit grand-père, grand-mère en train de mourir. On est en train de pleurer et tout. Alors que, si c'est quelqu'un, Inch'Allah, si c'était des gens pieux, ben, ils reçoivent les bonnes nouvelles de l'au-delà dès ce moment où il est dans ce dunya. Et les savants disent que ça, c'est vraiment une étape intermédiaire. Quand quelqu'un est dans l'agonie, quand la personne est dans les derniers moments de sa vie, c'est comme si on pourrait dire qu'il a un pied de ce dunya et déjà la moitié de son corps, il est dans l'au-delà. Parce que c'est le seul moment où un être humain a la possibilité de voir les anges tout en étant dans ce dunya. C'est le seul moment où un être humain peut voir les anges tout en étant dans ce monde. C'est au moment de mourir. Parce qu'au moment de mourir, le croyant reçoit donc la visite de ses anges qui sont tous porteurs de bonnes nouvelles. Et parmi les versets qu'on connaît, il y a un verset que tout le monde connaît, que nos enfants même apprennent à la madrasa, concernant la bonne nouvelle annoncée aux mourants. « Ya ayyatuhan nafsul » complété « Mutma'inna irji'i » retourne « ila rabbiki radiyatam mardiyya » Donc c'est des versets qu'on connaît, qu'on mémorise, qu'on entend le imam très souvent lire. Mais, subhanallah, si on y réfléchit, si on essaie de méditer, de décortiquer ce verset, ben, ça nous ferait tous rêver. De nos jours, il y a plein de choses qui nous font rêver. Quand on voit le... Comment on appelle ce stupide jeu-là, l'auto-queen, d'accord? Des affiches partout. Les gens à téléphone, à radio, l'auto-queen, je sais pas quoi. Quand on voit l'euro-million, quand on voit tel joueur, qu'est-ce qu'il gagne, quand on voit telle chose, moi j'aurais souhaité avoir telle chose, ça nous fait rêver. Allah musta'an. Alors que nous savons tous que ce sont soit des choses complètement haram, soit des choses qui profitent, qui nous apportent une jouissance, mais totalement limitée. Alors que ce qui devait nous faire rêver, c'est ce genre de verset où Allah Azza wa Jal annonce que le croyant va mourir, il reçoit la bonne nouvelle du paradis et du contentement d'Allah sur ce dunya. Qu'est-ce qu'il y a de plus réconfortant au moment où on va quitter femme et enfant? On sent que, vous savez que l'être humain, ce qui fait la caractéristique de l'être humain, c'est qu'au moment de mourir, l'homme reste attaché à ce dunya. Vous voyez, une personne qui est en train de suffoquer, en train de se noyer, on avait expliqué la dernière fois, même si quelqu'un essaie de l'apporter de l'aide, il faut faire très attention, parce que la personne peut s'agripper à vous, vous enfoncer pour sortir. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'être humain, et les êtres vivants d'une manière générale, ne veulent pas mourir, même si on est près de la tête, mais il y a quelque chose, un instinct qui vous raccroche à la vie. Mais au moment de mourir, on peut se dire que lui, il est triste, il va mourir, il a laissé autant de biens, autant de choses, sa femme, ses enfants. Mais au moment de mourir, il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique, de plus concluant pour un passage de ce monde. Parce que là, on ne conclut pas une année scolaire. Là, on ne conclut pas un examen, je passe le bac ou le DEUG, je ne sais pas si ça s'appelle plus comme ça, la licence, le master. Non, ce n'est pas une étape de la vie, ce n'est pas un CV, un entretien que je vais conclure. C'est une vie. C'est un passage. C'est un passage d'ouverture qui va m'amener vers un autre monde, le monde de l'au-delà. Et c'est le passage qui me permet d'accéder à soit la voie de droite, soit la voie de gauche. Parce que malheureusement, il n'y a pas de chemin intermédiaire. On ne peut pas retourner auprès d'Allah neutre. Soit on retourne auprès d'Allah en tant que croyant, fervent adorateur d'Allah, soit on retourne auprès d'Allah sans iman ou alors avec le fisq, avec un cœur rempli de saleté, d'impureté et de péché. Il n'y a pas 50 solutions malheureusement. Et donc, au moment de quitter ce dunya, il n'y a rien de plus magnifique, de plus concluant, réconfortant que de recevoir la visite d'un ange qui vous adresse les salams de la part d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Et ça, il y a un nombre de hadiths et versets du Coran qui citent ces anecdotes. Il me semble que dans le passé, dans le mois de Ramadan, peut-être, on avait légèrement développé. Il y a entre autres le verset, on avait dû parler ça de Tarawih, « Alladhina tatawaffahumul malaikatu » Complété. « Tayyibin » Parce qu'il y a deux. On voulait voir si quelqu'un ne connaît pas quoi, on voulait le tromper. « Alladhina tatawaffahumul malaikatu yadhalimi anfusihim » Ça c'est le mauvais, Allah protège. « Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum ila akhir al-aya » Ceux qui quittent ce dunya avec, mashallah, le meilleur état spirituel, c'est quelqu'un, la traduction est approximative, quelqu'un qui a passé donc son dunya, sa vie dans l'obéissance d'Allah, ben ils reçoivent la visite des anges qui leur dit « Salamun alaykum ». Et le salamun alaykum d'un ange, c'est beaucoup mieux que salamun alaykum de votre voisin. Que votre voisin, vos parents, madame ou les enfants disent salam alaykum. Bon, on entend, on répond. Mais qu'un ange, il vient vous dire salam alaykum, c'est vous transmet le salam de la part d'Allah. Et un ange qui vient vous voir et vous adresse ses salutations, c'est qu'il a, il sait qu'est-ce que vous représentez pour Allah. Autrement, ce ne serait pas lui qui aurait été, on va dire, mandaté pour venir vous voir. Parce que l'autre cas de figure, c'est catastrophique. L'autre cas de figure, c'est le mécréant ou le pécheur endurci, qu'Allah nous protège tous. Il reçoit l'ange de la mort, mais avant l'ange de la mort, ce sont des anges qui vont l'effrayer. Et dans certaines sources, il est dit que la vision de l'ange de la mort pour le pécheur endurci, pour le mécréant, c'est suffisant pour être un adab. Tout comme, si on avait oublié de préciser, la vision de l'ange de la mort, Malik al-Maut, pour l'homme pieux, on pourrait dire que c'est suffisant comme récompense de la part d'Allah. Cette vision, elle est tellement magnifique pour le croyant que c'est comme si que c'était une récompense pour sa vie. Alors que pour le mécréant, c'est une vision tellement horrible que ça peut être un châtiment qui sanctionne tout son passage de ce dunya. Donc ça, on a besoin de prendre conscience également de l'existence de cet ange qui est Malik al-Maut. Et là également, vous savez que Allah Azza wa Jal ordonne à l'ange de la mort parfois de reprendre l'âme de centaines, voire de milliers, parfois de centaines de milliers de personnes en quelques instants. Il y a un tremblement de terre au Pakistan, un séisme en Turquie, un glissement de terrain en Californie, un ouragan à je ne sais pas où ça. Ce sont des événements qui ont lieu, un tsunami, je ne sais pas dans quel endroit. En même temps, vous pouvez avoir 3 ou 4 millions de vies qui s'éteignent en même temps. Mais est-ce qu'il y a combien d'anges de la mort donc? Est-ce qu'il donne procuration à des gens? Est-ce qu'il y a d'autres manières pour lui? Non, c'est le même ange qui est capable de reprendre des milliers et des millions, autant de arwah qu'Allah lui ordonne de prendre, et il est capable de les prendre en même temps. Ça c'est le qudra, la force, la puissance qu'Allah Azza wa Jal a donné, a accordé à Malik al-Maut, à l'ange de la mort. Et ça, quand nous contemplons la force de ces malaïkas, ça nous ramène vers la puissance, la qudrat d'Allah Azza wa Jal, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui donne la force à des malaïkas pour accomplir des, à des anges pour accomplir des missions. Et c'est ce même Rabb qui décidera de la mort de ses anges également avant le Qiyama, parce qu'on avait dit que pour le Qiyama, plus aucune trace de vie, aucune créature ne va subsister. Il ne restera que le créateur l'imanil mulkul yawm lillahil wahid al-qahar. Et également, nous voyons la précision de l'ange de la mort. Dans, un, dans une assemblée où il y a 100 personnes, s'il y a 45, 50 qui doivent mourir, mais il sait exactement qui doit mourir. Il ne se trompe pas. Il y a des fois où on a un grand-père et on a le petit-fils, et c'est le contraire qui se passe. C'est le petit-fils qui meurt. Et le grand-père, il ne fait que voir son petit-fils mourir et enterrer. Ça existe, ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Est-ce que c'est l'erreur de l'ange de la mort? Est-ce qu'on a dit qu'il a inversé les fichiers, il a lu dans l'autre sens, c'était pas lui, c'était l'autre qu'il fallait prendre? La wallah. La ya'asuna Allah ma amarahum. Ils n'obéissent jamais à Allah. Ils font ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, et ils sont capables, une frappe chirurgicale, sur 10 000 personnes, prendre l'âme d'une personne. Ou alors sur 10 000 personnes, prendre 9 999 et laisser un survivant. Il y a des fois où il y a un crash d'avion, l'avion s'est mal posé, etc. Il y a deux survivants sur un Boeing tout entier. Ces deux personnes-là, leur nom n'était pas sorti dans le taqdir. Leur n'était pas venu pour eux. Ça, c'est la décision d'Allah. Et la décision d'Allah, elle est parfaite, irrévocable et appliquée à la lettre par Malik al-Maut, par l'ange de la mort, tout comme toutes les décisions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque... Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, ce sont les deux descriptions de l'ange de la mort. L'ange de la mort qui vient prendre l'âme du croyant et l'ange de la mort qui prend l'âme du mécréant, de celui qui est dans l'erreur de le péché du matin au soir. On est conscient de ces deux cas de figure. Ce sont des descriptions qui ont été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, ma yantiqu anil hawa, qui ne parle pas de lui-même, tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah. Donc c'est haqq, c'est réalité, c'est la vérité. Maintenant, moi en tant que croyant, et en tant que croyant éclairé, parce que s'il suffisait juste d'écouter plein de choses, on n'irait pas loin. Certes, quand on écoute, on a les récompenses, les péchés sont pardonnés, bien sûr, mais l'objectif d'une assemblée, c'est avant tout mettre en pratique, que ça porte un changement. Autrement, ça reste un discours, comme si on écoutait un politicien, on écoutait un économiste ou autre chose. Mais la parole d'Allah, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but c'est qu'il y ait un effet direct sur le cœur. Et quand le cœur est imbibé de la parole d'Allah, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'effet va se ressentir avec les jawarih, les membres. Les membres vont devenir soumis et plus obéissants vers Allah azza wa jal. Les yeux vont obéir à Allah, les oreilles et chaque partie du corps. Et c'est ça l'objectif. La manière de penser, la manière de concevoir ce dunya, nos objectifs, nos rêves, nos craintes doivent changer en fonction de ce qu'on écoute. Parce que quand quelqu'un est plongé dans le dunya, du matin au soir, on vit avec des gens qui parlent que de l'argent, que d'investissement, gagner, rentabiliser, ben le cœur, les yeux, les oreilles, les membres du corps vont intégrer ces valeurs et ils vont fonctionner que pour ça. Pour ça, quelqu'un qui grandit dans une famille de commerçants, d'économistes ou autre chose, ben il va être comme eux, il va avoir que ce fikar, que ce souci en tête. Alors qu'une personne qui prend l'habitude d'écouter les paroles d'Allah, ben, ces paroles-là vont entrer dans son cœur et apporter une lumière. C'est l'objectif. Et avec cette lumière, Inch'Allah, ça doit se rejaillir sur les membres de son corps et, comme on l'a dit, également sur la façon de penser. Il aura d'autres objectifs. Il aura une autre vision des choses et il aura un autre rêve. Son rêve, ce ne sera pas de devenir millionnaire et être propriétaire d'une villa piscine et d'une telle voiture et avoir les plus belles femmes au monde et ainsi de suite. Ce qui se résume malheureusement au rêve de tout citoyen lambda. Non, son rêve ce sera de vivre en fonction des ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mourir de cet état et d'avoir l'annonce, la bonne nouvelle de l'ange de la mort au moment de mourir et qu'il sait que son âme va monter d'étape en étape, de ciel en ciel en recevant les félicitations des malaïka jusqu'à ce que son âme, son ruh arrive au trône d'Allah en prosternation et il reçoit l'agrément d'Allah. Et c'est un homme qui sera sauvé. Ça, ce sera son rêve. Son rêve, ce sera qu'un jour, Allah me donne la mort quand je suis en train de prier. pendant le tahajjud, la prière de la nuit, complétée. Pendant le mois de Ramadan, complétée à quel endroit?
Les 10 derniers jours.
Ça, c'est pas un endroit. On va dire les 10 derniers jours. Dans quel endroit? À Mecca, autour de la Kaaba. Oui ou non? Est-ce qu'il y a mieux que ça? S'il y a mieux, dites-moi, je signe. D'accord? Est-ce qu'on ne doit pas avoir ce rêve? Oui. À nous, qui nous pour pas rêver? Ne l'est pas moins que les autres. C'est-à-dire, ça doit être le rêve de tout croyant. Bien inconscient, celui qui ne demande pas ce doigt après chaque salat. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il demandait comme doigt? Allahumma rzuqni shahadata fi sabilik, wa amitni fi baladi rasulik. Oh Allah, accorde-moi la mort dans ton chemin, shahid. Et oh Allah, accorde-moi la mort dans le pays, dans la ville de ton prophète, al-Madinah al-Nabawiyya. Sachant quelles sont les vertus de mourir à Madina. Allah lui a accordé la mort shahid. Il a été assassiné. Et Allah lui a accordé la mort à Al-Madina. Ça doit être nos rêves. Le doua qu'Ibn Umar ibn al-Khattab, il disait tout le temps. Et nous, malheureusement, nos doua, c'est quoi? Rabbana atina fi dunya hasana. Rabbana atina fi dunya hasana. Rabbana atina fi. Zawjatan saliha, amwalan kathira, akalan kathira. Mangez beaucoup, jolie madame, beaucoup de bienfaits, beaucoup d'entrées d'argent. La ilaha illallah. Mais si déjà on s'adresse à Allah pour nos demandes, c'est bien, c'est déjà bien. C'est qu'on sait qui c'est qui accorde, qui c'est qui donne, qui c'est qui nous donne, qui retient, on connaît. Mais avoir un peu plus d'espoir, avoir un esprit plus clairvoyant, qui ne se limite pas à notre vie, parce que notre vie est limitée à une espérance de vie. Si nos rêves sont limités aux années qu'on passe de ce dunya, c'est qu'on n'a pas réellement compris c'est quoi Iman. Nos rêves doivent aller au-delà des cieux. Notre rêve, c'est quand on retourne auprès d'Allah avec l'agrément d'Allah. Ça, c'est la plus belle. Ça, c'est le plus beau rêve. C'est le plus beau des objectifs. Passer notre vie dans ce monde et quitter ce monde alors que Allah est content, satisfait de nous pour qu'il nous gratifie par le paradis où on va vivre éternellement avec les bienfaits d'Allah et on va voir la beauté d'Allah régulièrement de le Firdaus. Ça doit être ça mon rêve. Et donc, le rêve du croyant qui a l'esprit ouvert, éclairé, qui a tout compris, c'est que tout le temps il dit « Oh Allah, accorde-moi la mort ». Encore une fois, je le répète, au moins, si on ne sait pas comment rêver, je vous apprends à rêver. « Oh Allah, accorde-moi un jour à la mort en état, pendant la salat, quand je fais la prière de la nuit, pendant le mois de Ramadan, la dernière décade, comme notre frère a dit, « Amakatul Mukarrama ». Au toit de la Kaaba. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est une mort magnifique. On appelle ça Husnul Khatima. Vous avez déjà vu sur Facebook, la photo de cet homme qui est mort à Madina, en Sijda. Ça, c'est du costaud, ça. La photo d'un homme qui est mort à Madina, en Sijda, dans la Masjid Nabawi, fils à cela, Malik al-Maud prend son âme en état de prosternation dans la ville sainte. Est-ce qu'il y a de mieux que ça? Est-ce que ça ne vaudrait pas de sacrifier tout ce qu'on a, notre maison, nos biens, tout donner pour avoir ça? Oui ou non? Oui. Ça, c'est la plus belle des choses qui peut nous arriver. Ça doit être ça notre rêve. C'est-à-dire que quand on passe de ce monde à l'autre, que ce soit dans un moment où Allah est content et satisfait de nous. Et demander protection à Allah qu'on ne meure pas dans une situation où on est dans rafla, dans l'insouciance. Dans les périodes de péché, de cumul, de mauvaises actions, et que là, l'ange de la mort reprend notre âme. Parce que, en général, l'homme, lorsqu'il meurt, ce sont les dernières actions qui sont mises en avant. Quand on meurt sur une bonne action, c'est un bon signe. Tandis que quand quelqu'un meurt dans une phase de péché, une mauvaise phase de sa vie, ça c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais, annonçateur de mauvaises choses pour ce qui va se passer après, et Allah sait mieux. Donc, ce qu'on disait, c'est que quand on a vu, on a intégré les deux cas de figure de la présentation de Malik al-Maut pour le croyant ou celui qui ne croit pas, mais c'est là qu'on doit rêver. On doit avoir cette envie que l'ange de la mort me vienne sous l'aspect qu'on a décrit, qu'il m'annonce la bonne nouvelle et que donc je sois agréé et accepté par Allah Azza wa Jal. Hada. Et d'une manière générale, on a parlé de l'existence de deux ou trois anges, d'une manière générale, nous voyons quelle est la force et la puissance qu'Allah a accordée à ses malaïka. Et si on compare par exemple, vous voyez l'histoire de, subhanallah, de l'ange, de Suleyman, alayhi salam, lorsqu'il voulait avoir le trône de Bilqis. Vous connaissez l'histoire. D'accord ? Il y avait dans l'assemblée un djinn qui a dit « قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ » Avant que tu te lèves, tu complètes cette assemblée, je t'amène ce trône. Et c'est une force extraordinaire ça. Des milliers de kilomètres, il aurait pu parcourir, prendre un trône et ramener. Et il y avait quelqu'un, قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ » Il y avait un homme qui avait la science de la part d'Allah, il dit « أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَيْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ » Avant que tu ne clignes les yeux, je te l'amène. Et là, Moussa s'est rendu compte que vraiment Allah lui a accordé un mulk extraordinaire. Il est dit en petit commentaire, petite parenthèse, que cet homme-là, Allah Azza wa Jalla lui avait enseigné le Ismul A'zam, le nom sublime d'Allah. Quand on invoque Allah par ce nom, Allah accorde et exauce le doigt. Et donc il dit que si des êtres humains ou djinns qui sont beaucoup, il n'y a rien à comparer avec la force des anges, s'ils étaient capables de faire des choses extraordinaires, que dire maintenant de la qudra, de la force des malaïka. Et nous l'avons bien vu avec le souffle de Israfil, le souffle qui donne la mort par ordre d'Allah et qui redonne la vie par ordre d'Allah et qui peut anéantir des millions, des milliards de créatures en quelques secondes. Et nous l'avons vu, nous avons également vu cette force de Malik al-Maut capable de reprendre combien d'âmes ou de trier des âmes comme Allah Azza wa Jal lui demande. Et tout ça, comme on a dit, ça nous ramène vers la force, la puissance d'Allah. Quelle est donc la force d'Allah si ces créatures ont, à qui hein, il accorde de tels pouvoirs, ils ont, mashallah, autant de capacités, autant de qudra. Et puis il y a d'autres malaïka, je pense qu'on ne va pas plus s'attarder sur ce sujet. Il y a l'ange, par exemple, qui est responsable de l'enfer. Et quand on analyse, quand on lit les versets qui parlent de l'ange qui est responsable de l'enfer et qu'on retient, on va dire par exemple le surat, le verset du sourate Zukhruf, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. De ce verset, les gens qui sont dans le Jahannam, ils supplient l'ange responsable de l'enfer d'invoquer Allah, de faire une intercession pour qu'Allah les détruise. C'est dit, ils ne veulent pas dire qu'Allah nous enlève, nous met dans le paradis, non. Que Allah finisse avec nous. On aimerait mourir parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? La personne qui est dans l'enfer, elle vit des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer jusqu'à ce que son corps soit complètement consumé. Et à chaque fois que le corps est consumé, kullama nadijat juluduhum, qui complète baddalnahum juludan ghayraha li yadhuqul adhab, nasallahu salamata wal afiya. À chaque fois que la peau est consumée, Allah Azza wa Jal fait renaître une nouvelle peau, une nouvelle chair, pour que le châtiment soit perpétuel. Et c'est ce qu'on appelle l'éternité, al-khuloud. Autant lorsqu'on parle de khuloud, d'éternité pour le paradis, ça fait rêver. Lorsque les gens qui sont dans le paradis voient l'ange de la mort qui n'existe plus, c'est le plus grand bonheur pour eux, parce qu'ils savent que c'est jouissant, c'est pour tout le temps. Alors que les gens qui sont dans le Jahannam, lorsqu'ils voient que l'ange de la mort, lui-même, il trouve la mort, qu'il n'y a plus de mort, de maut après ça, pour eux, c'est la plus grande catastrophe. Parce que le plus bel espoir qu'ils avaient de le Jahannam, c'était de pouvoir s'éteindre, de pouvoir mourir. Alors que dans ce monde, la pire des choses, c'est de mourir. Et la plus belle des choses, c'est de vivre éternellement. C'est le rêve de beaucoup d'hommes. Ils ont écrit des livres, des fables, hein, des potions qu'ils boivent pour vivre tout le temps et ainsi de suite. D'accord ? Alors que dans le Jahannam, le plus beau rêve pour un homme, enfin on ne parle même plus de rêve, l'espoir qui anime leur cœur, c'est de pouvoir mourir. Et donc là, ils vont invoquer l'ange. C'est qui le plus grand ? Le maître, hein, celui qui dirige un peu le Jahannam, c'est cet ange-là. Ils vont voir Malik, liyaqdi alayna rabbuk, qu'Allah nous détruise, qu'il nous donne la mort. Mais Malik dit, innakum makithun, il n'y a rien à faire. Vous y restez et il n'y a aucune intercession, aucun changement de situation. Quand on analyse les versets qui parlent des anges responsables de l'enfer et qui parlent de l'enfer d'une manière générale, il y a un verset qui nous revient à l'esprit. Allah Akbar, si on trouve les débuts. Il y a des fois on a la fin et le début ça vient pas. De l'autre sens ça vient. C'est dans le Baqara même si je ne me trompe pas. Subhanallah. Waquduha an-nas wal hiya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Cinq descriptions de ces anges. Comment commence ce verset? Ce verset commence par un nida. Allah Azza wa Jal ordonne à chaque personne qui a iman dans le cœur. Ya ayyuhal ladhina amanu. Et les mufassirs disent que quand on entend Ya ayyuhal ladhina amanu, on doit dresser la tête et dresser les oreilles et ouvrir les cœurs. Parce que c'est à qui ça s'est adressé ces versets? C'est à nous. Ya ayyuhal ladhina amanu. Tout le monde se reconnaît comme ayant iman. Qu'est-ce qu'Allah nous ordonne? Qu'au anfusakum. Protégez-vous. Attention. Et qui c'est qui nous met en garde? Qui c'est qui nous dit faites attention? C'est Rabbul Izzah, Allah notre créateur, qui prend soin de rappeler à l'homme attention, il y a un danger. Qu'au anfusakum wa ahlikum. Et protégez vos familles également. Est-ce que la protection de la famille, ce n'est pas une priorité pour un père? Oui ou non? Vous voyez, un accident, ou alors Allah nous protège, un incendie ou autre chose. Qu'est-ce que vous sauvez avant? L'argent, les meubles, je ne sais pas, n'importe quelle, la voiture, ou le bébé dans le berceau, madame et le petit garçon qui dort. Vous les prenez, vous sortez, parce que ça c'est humain ça. Même si le soir-là, on la bataille avec madame, on la casse toute complète porcelaine. Mais sauver sa femme et ses enfants, c'est tout à fait normal. Ça c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur de l'homme. Mais Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme, attention, sauvez-vous, protégez-vous et protégez ahlikum. Al-ahl, c'est la femme et les enfants, c'est les proches. Et Allah nous demande de nous protéger contre quoi? Nar, attention à ce feu. Ou anfusakum wa ahlikum nar. Parce que ce feu-là est terrible. Parce que ce feu-là, waqooduha an-nas wal hijara. Qu'est-ce qui est le combustible? Al-Waqud, c'est ce qui est le combustible, c'est-à-dire ce qui permet au feu d'être attissé, d'exister, d'être amplifié. Ce sont les pierres. Si c'était que les pierres, on s'en sort bien. Mais c'est pas que les pierres. Waqooduha an-nas. Il y a également an-nas. C'est qui an-nas? C'est les hommes. C'est les êtres humains qui sont les combustibles du Jahannam. Waqooduha an-nas wal hijar 'alayha. Ah, maintenant c'est autre chose. 'Alayha mala'ika. C'est là que ça nous intéresse, par rapport aux anges. Sur ce feu, autour de ce feu, ou dans ce feu, il y a des malaïkas. Des malaïkas, et là aussi on voit la qudrat d'Allah. Les anges, ils sont dans le Jahannam en train de faire subir les châtiments, mais ils ne sont pas brûlés. Parce que les anges sont créés de lumière. Donc le feu de l'enfer ne les touche pas. Et puis comment et tout? Ça c'est Allah seul qui le sait. Ce ne sont plus nos règles de physique, de chimie, le feu, la lumière, le feu, l'eau. Non. Oubliez tout ça, ce qu'on a appris en 4e, 3e, ça c'est les règles de l'au-delà. Ils sont là, toi tu crames, enfin pas toi, mais ceux qui sont dedans, ils crament, mais les anges ils sont intacts et ils font subir les châtiments. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. J'ai pas la traduction sous les yeux, mais غِلَاظٌ شِدَادٌ, ce sont des attributs, ce sont des descriptifs très durs, des anges durs, sans pitié. Sans le moindre atome de bénédiction dans leur cœur. Rilavun shidad. La ya'asun Allah ma amarahum. Surtout qu'ils ne désobéissent pas à Allah. Il n'y a pas un atome de pitié dans leur cœur quand ils voient des gens souffrir. La ya'asun Allah ma amarahum. Wa yaf'alun ma yu'marun. Et ils font ce qui leur est ordonné. Al-malak al-muwakkal bin nar. Ce sont les anges qui ont été créés pour les châtiments du Jahannam, le châtiment de l'enfer. Donc, en étudiant le monde, le alam, donc des malaïkas, dont on a abordé 3 ou 4 anges, quand on prend conscience également qu'il y a des anges qui ont été créés pour l'enfer, pour les châtiments, et qu'Allah, Azza wa Jal, parle à ceux qui ont la foi. C'est pas qu'Allah dit « Ya ayyuhal ladhina ashraku » ou « Ya ayyuhal ladhina kafaru » non. « Ya ayyuhal ladhina amanu » Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité que parmi les ahlul iman, il y a des ahlul iman qui vont dans l'enfer avec femmes et enfants. Enfin, les enfants qui sont devenus grands. Les proches, ils vont dans l'enfer aussi. Qu'un père ne puisse sauver sa famille de l'enfer. C'est une éventualité citée dans le Coran. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal demande à l'homme de faire bien attention. Donc, de propager la religion, de faire vivre le dîn dans sa vie et de faire vivre le dîn à sa famille, à ses proches, pour qu'un jour, il ne regrette pas. Et il voit ses proches périr et mourir dans le Jahannam et peut-être même lui avec. Et ça, ce serait la pire des choses, le pire des cas de figure. Combien de fois on voit des familles, on ne juge personne, des familles, papa, maman, les enfants, on voit le mode de vie, on voit le mode d'habillement, on voit la mentalité, ahlul iman, ils ont la ilaha illallah de leur cœur, mais c'est comme si que ce la ilaha illallah c'était la dernière des choses, ça ne les intéresse pas. Ce la ilaha illallah c'est pour Eid al-Fitr, Eid al-Adha, et occasionnellement pour le mois de Ramadan. Et là aussi, ça va être synonyme de gâteau, de fête, de réunion, de festivité, de festin, festoyer. Baisse. Et que c'est ça la religion. Et que l'essentiel du fikar, c'est le dunya, c'est la réussite scolaire, c'est les études, c'est la vie, les plaisirs. C'est... Et il n'y a aucun sima, il n'y a aucun signe d'attachement au dîn d'Allah. Et les gens, ils sont contents, ils sont fiers, et ils sont persuadés qu'eux, ils sont au-dessus des autres. Et que ceux qui sont religieux, en guillemets, qui sont dans le dîn, qui pratiquent, ce sont des, on appelle ça raj'iyya, hein, des gens qui sont arriérés, des gens qui n'ont rien compris, qui ne savent pas s'intégrer. Et ils vous regardent parfois d'un regard moqueur. Comme si que eux, ils ont tout intégré, et toi, ben, tu es encore, tu vis, t'es un homme préhistorique, à quelle époque tu vis, tu vois pas le progrès. Allahu musta'an. Des gens qui ont les, c'est quoi ça? Ça, c'est le résultat de cœur bouché. Ça, c'est tout un mécanisme, ça. C'est pas qu'il naît pécheur, il meurt pécheur, non. Ça, c'est le verset Kallabal, complété. Rana. Kallabal. Rana ala qulubihim ma kanu. Yaksiboun dans le Mutaffifin, ça, non? Rana, c'est quoi? C'est les points noirs sur le cœur. C'est quoi un point noir? Qui c'est qui amène un point noir? C'est pas une maladie, ça. C'est pas une allergie, hein. Le point noir, c'est le péché que tu décides de faire. C'est pas le péché qui te tombe dessus, mais sort de la masjid, t'es zina, tombe chez moi, t'es comment il fait, gars? C'est pas comme ça que ça se passe. Abadan, ça se passe jamais comme ça. Arran, c'est le péché que tu décides de faire. C'est quand tu allumes ton Walkman pour écouter le rap. C'est quand tu cliques, Allah nous pardonne, nous protège, sur Internet pour regarder le haram. C'est quand tu décides de répondre à tes parents. De manquer de respect. C'est quand tu décides de faire un pas vers le zina. Il arrête les dhalik. Quand tu décides de consommer quelque chose de haram. Quand tu décides d'aller faire un emprunt avec l'intérêt haram auprès de ta banque pour avoir des choses. Et ainsi de suite. Et les péchés, hadith wala haraj. C'est quand tu vas critiquer ton prochain. Tu vas faire le riba, le bohtan, le namima, le qila wa qal, colporter, calomnier, et ainsi de suite. Tout ça, ça amène des ran, des points noirs sur le cœur. Hadith très connu de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'être humain accomplit un péché, il y a un point noir qui s'installe sur le cœur. Qui c'est qui ne connaît pas ce hadith par cœur? Qui c'est qui ne l'a pas entendu au moins 25 fois de sa vie? Tout le monde l'a entendu. Tout le monde le connaît du début jusqu'à la fin. Je n'ai même pas besoin de compléter, vous connaissez la suite. Mais en réalité, haqiqa. Je parle pour moi en premier, on ne donne pas des leçons, hein. On est là pour faire un bilan de notre vie, parce que demain on meurt, ou peut-être dans 10 minutes, peut-être dans un an. Et quand il arrive là-haut, c'est nafsi, nafsi. Il n'y a plus personne là. Donc c'est maintenant, il faut faire un peu fikar, comment on retourne auprès d'Allah. Donc, quand un, ça me dit, quand une personne accomplit un péché, il y a un point noir qui s'inscrit sur son cœur. S'il demande taouba, le point noir s'en va. Mais attends. S'il demande taouba, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi direct. S'il demande taouba, c'est quoi taouba? Quand est-ce qu'Allah accepte le taouba? Vous vous rappelez? Trois conditions. On a vu dans le bab ou taouba. Je regrette le péché. Être sincère. Je regrette le péché. Je le déteste maintenant. Et je fais l'intention ferme de ne plus jamais recommencer. Shurut, taoubatun nasuha. Là, le taouba est accepté. Donc, par mégarde, je suis entré dans ma voiture. J'ai écouté un petit morceau de musique qui m'a rappelé ma jeunesse. Et j'écoutais 2 minutes, 3 minutes, me rendant compte que depuis Masjid jusqu'à mon cas, j'étais dans, puis j'ai dit, Astaghfirullah. Et là, vraiment, je regrette, mais regrette sincèrement, Allah, ça c'est grave ce que j'ai fait, c'est un péché, jamais plus, oh Allah et tout. Ben, il y avait un point noir pendant tout le trajet, depuis Saint-Clotilde jusqu'à, je sais pas où ça vous habitez. Mais quand vous avez demandé, Astaghfirullah, oh Allah, pardon, tawbah, ya Allah, pas forcément faites de rakat, demandez doigt, pleurer, non. Même ça peut être Astaghfirullah, mais sincère. Qui vient du cœur avec regret et remords et l'intention de ne plus recommencer, le point noir s'en va. Mais si je ne demande pas taouba, le point noir il reste. Et quand vous allez faire, quand on va faire un autre péché, il y a un autre point noir. Le troisième, le quatrième, ça c'est ce qu'on appelle rafla. C'est de l'insouciance. on vit de le péché du matin jusqu'au soir. Et là aussi, c'est un puzzle ça. Pourquoi est-ce qu'on est dans l'insouciance quand on ne connaît pas iman, c'est quoi? On ne connaît pas qui est Allah, on ne connaît pas iman du malaïka, on ne connaît pas iman de Rasoul, le retour auprès d'Allah, le paradis, l'enfer, la mort. On ne connaît pas les réalités. Une ignorance totale de la religion, du but de « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Ce qui fait que là, on va s'adonner au plaisir et on oublie les choses de base. Et donc, quand on fait un péché, ça devient quelque chose de normal. Liberté d'expression, l'émancipation et tous les discours qu'on entend. D'accord? Et donc, et ainsi de suite, les péchés se vont s'accumuler et les points noirs vont noircir le cœur. Et lorsque le cœur devient noir, il devient dur et le cœur n'est plus sensible aux paroles d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il y a un autre verset, subhanallah, dans surat Al-Infitar. Le verset ne me revient pas si quelqu'un l'a en tête, barakallahu fikum. Qu'on parle des versets du Coran et qu'ils entendaient, mais ça ne faisait aucun effet sur eux. Le verset ne me revient pas. C'est que, alors que normalement le Coran touche les cœurs, mais quand quelqu'un, une personne est arrivée à un tel degré d'éloignement, le cœur devient imperméable, que même les versets ne font plus d'effet sur ce cœur. Donc ça, il faut vraiment demander protection à Allah Azza wa Jalla. Alors comment est arrivé jusqu'au point noir, hein, on est parti un petit peu loin. Donc quand, subhanallah, quand on voit, oui, parfois des gens, des personnes, des familles qui se plaisent dans le péché, dans le haram, dans le rafla, dans l'insouciance, et qui n'ont aucun souci de din, de retour auprès d'Allah, de conception de la mort, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Ils ne font pas la relation, la liaison entre les actions et leurs conséquences. Ce sont pourtant des choses de base. Il n'y a pas besoin d'être un grand mufti, un grand fundi pour connaître que chaque action que je fais, je vois les conséquences. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Des versets de base que tout le monde connaît. C'est-à-dire que quand le cœur devient noir, je vois, j'entends ces versets, je connais peut-être la traduction. Peut-être j'entends même Imam Soudaï Shulaim lire quand je vais Umrah, Hajj, mais ça ne fait aucun effet parce que le cœur là, il a un gros problème, il est devenu imperméable tellement on a fait des erreurs, des péchés. Donc quand on voit des gens de ces erreurs et on se dit que subhanallah, la guidée elle est uniquement dans les mains d'Allah et qu'il y a des familles tout entières qui peuvent prendre la direction de Jahannam parce qu'ils ont vécu dans l'insouciance. Et ça c'est la pire des choses. Alors que le plus grand bonheur, on va terminer quand même sur une bonne nouvelle puisqu'on a tous des têtes d'enterrement là. Alors que, subhanallah, la plus belle des choses, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal annonce dans le Coran, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Et le summum c'est quoi? Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Ils disent quoi? Salamun alaykum. Allahu Akbar. C'est le pas, j'ai pas la traduction là. Jannat ali être le paradis où ils vont entrer avec leurs compagnes, avec leurs femmes, avec leurs enfants, leurs familles. Mais wa man salaha, hein, ceux qui ont mérité, c'est-à-dire ceux qui avaient les qualités pour accéder au paradis. Et là, les savants disent que le plus grand bonheur, le summum, le paroxysme même du bonheur pour un croyant, c'est de se retrouver dans le Jannah avec son papa, avec sa maman, son grand-père, sa grand-mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. C'est pas juste pour faire une grande fiesta. Ça veut dire que tous ces gens-là, ils ont vécu dans l'ordre, dans l'obéissance d'Allah. Toutes ces personnes-là, j'ai pu les ramener. Ils ont avancé vers Allah. Leur passage de ce dunya a été agréé par Allah et qu'ils se retrouvent tous à l'âge de 33 ans. Il n'y a plus les maladies, il n'y a plus les problèmes de santé, il n'y a plus les malheurs, il n'y a plus les difficultés. Allahu Akbar pour une éternité de bonheur. N'est-ce pas là le rêve de tout être humain? Et n'est-ce pas de l'autre côté la pire des choses, le pire des scénarios où des gens ils brûlent ahlikum quran fusakum ahlikum nara, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont iman qui vont brûler le jahannam avec leurs proches parce qu'ils ont été dans le mauvais chemin. Alors que de l'autre côté, il y en a qui seront dans le paradis avec femmes et enfants et tous les amis, tous les proches parce qu'ils ont vécu dans l'ordre dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Et qu'est-ce qui se passe également quand ils sont dans le paradis autour d'eux qui viennent des malaïka? Subhanallah, ramenez-moi vers le verset. Yaquluna, subhanallah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu, voilà. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Les anges, ils viennent voir ces familles, ces personnes de le paradis et ils présentent les salams à ces gens. Salamun alaykum. J'ai pas la fin du verset. Salamun alaykum. Tubtum. Là on est un petit peu fatigué là. Salamun alaykum bima Allah Akbar, ça reviendra inshallah. Et les anges donc, ils présentent le salam par rapport au vécu, c'est le verset, la traduction, c'est par rapport au vécu, à la vie qu'ils ont passée de ce dunya. C'est-à-dire, comment, quelle orientation ils ont donné à leur vie? Comment est-ce qu'ils ont fait la relation entre les années de ce monde et l'éternité de l'au-delà? Et par rapport à ça, salamun alaykum bima sabartum, si je ne me trompe pas, bima kuntum ta'amaloun, encore meilleur, jazakallah khair. Salamun alaykum bima kuntum ta'amaloun. Sûr? Adjugé? D'accord. Ne tout un peu kacha, on dirait. Salamun alaykum bima kuntum ta'amaloun. Je dois revoir le verset, mais c'était en relation de toute façon avec les a'mal. Ça, c'était sûr, c'était en relation avec les a'mal, avec les actions que la personne a accomplies de ce dunya. Ça, c'est le plus beau des cas de figure. D'un côté, on a des anges. De l'autre côté, on a des anges. Donc tout ça, ça rend de l'alam, de le monde des malaïkas qu'on a besoin de connaître pour avoir l'espoir. Mon espoir, c'est de rencontrer les anges. Il reste un dernier, c'était Khazinul Janna, l'ange du paradis. Dans certaines sources, si je ne me trompe pas, on l'appelle Ridwan, l'ange du paradis. On ne l'appelle pas Ridwan, non? D'accord, tu vois, tu l'appelles Ridwan. L'ange du paradis. Notre rêve, c'est de rencontrer Ridwan, de rencontrer ces anges qui nous annoncent les bonnes nouvelles, qui nous félicitent lorsqu'on entre dans le paradis. Et notre plus grande crainte, c'est de voir un ange qui nous annonce les mauvaises nouvelles au moment de mourir et de voir les anges qui ont été décrits dans les versets. Donc tout ça, quand on creuse, et franchement, on était presque irrespectueux envers les malaïkas en consacrant que 3 séances, mais si on va plus loin... Si, subhanallah, qu'on était étudiant, Al-Iman, les Malaïka, ça nous a pris presque 6 mois pour étudier. Presque 6 mois pour étudier Al-Iman, les Malaïka. On essayait de faire une branche de la foi à peu près tous les semestres. Mais Allah Akbar, plus on étudie, plus on comprend la force, la grandeur d'Allah et comment nous devons nous montrer reconnaissants vers Allah. Comment est-ce qu'on doit se sentir rempli d'humilité avec des anges qui passent l'intégralité de leur existence en ruku, en sijda? Et ils ont une crainte d'Allah, ajib, alors que nous on est de rafla, on n'hésite pas à désobéir à Allah devant les gens ou en cachette, sans le moindre souci, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Donc plus on va comprendre le monde des anges, plus également on va se rapprocher d'Allah et notre iman va augmenter, inshallah. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, nous fasse intégrer les réalités de ces quelques explications et que ces explications-là soient inshallah des lumières qui pénètrent nos cœurs et qui nous permettront d'agir mieux, de devenir de meilleurs croyants, de faire plus de bonnes actions, de nous éloigner des péchés et d'être plus patients face aux difficultés, face aux épreuves. Donc inshallah, lundi prochain, on va voir le Ar-Rukn al-Thalith, le troisième pilier de la foi, c'est wa kutubihi. Et je pense que wa kutubihi, wa rusulihi, les deux on pourra faire en même temps. Croire au livre et croire au prophète, au pluriel, qu'Allah Azza wa Jal a envoyé. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. On renouvelle le message de Yom al-Jum'a. Attention, dès samedi ou dimanche, on va entrer dans la décade de Dhul-Hijjah. Alors on doit se préparer dès maintenant. Aujourd'hui on est quoi là? Lundi. Hein, on a 5 ou 6 jours pour réfléchir comment je vais organiser ma décade de Dhul-Hijjah. On avait expliqué vendredi comment ces 10 jours-là sont extrêmement importants. On aura peut-être l'occasion de faire encore un peu de rappel. Mais dès maintenant, on garde dans un coin de l'esprit que dans une semaine, ça va être des moments magnifiques et je vais organiser mon temps pour être au top en termes de ibadah, parce que ce sont les périodes de l'année où les a'mal sont les plus appréciés et les plus aimés par Allah.